Bonjour, cette semaine, quand on ne parlait pas de vaccins et de Covid, on parlait de Twitch, cette plateforme sur Internet, à l'origine animée par des joueurs de jeux vidéo, les gamers, où sont proposées des émissions de toutes sortes, des émissions interactives, c'est-à-dire que les internautes posent des questions, postent des commentaires en direct. Alors le personnel politique et notamment le gouvernement Macron s'incrustent de plus en plus littéralement sur ces plateformes prisées par les jeunes. Alors je parle de Twitch comme d'Instagram. Cette invasion ou ce début d'invasion fait débat. Alors les optimistes parlent d'une salutaire politisation de la jeunesse ou d'une démocratie directe en ligne. Les autres voient surtout une volonté d'agglomérer des audiences de jeunes dans la perspective de l'élection présidentielle. C'est de tout ça dont on va parler aujourd'hui avec trois youtubeurs Twitchers célèbres. Usul, bonjour.
Bonjour.
Alors, les Asinodes vous connaissent bien, je pense. Vous êtes un ancien chroniqueur de jeux vidéo. D'ailleurs, vous êtes tous un peu des anciens gamers, non ?
J'ai toujours été gamer, mais j'ai jamais chroniqué, par contre.
Voilà, voilà. Des anciens gamers.
J'ai jamais chroniqué.
Aujourd'hui, vidéaste et youtubeur politique. Vous avez une revue de presse sur Twitch, une chronique pour Mediapart qui s'appelle Ouvrez les guillemets. Et alors, pour voir ce que vous faites, on va regarder un tout petit bout de votre dernière chronique dans Mediapart où vous parliez justement du sujet du jour avec votre collègue Cotentin. On regarde.
Alors, ça va les influencer? Vous êtes allé regarder Gabriel Attal sur Twitch? Vous avez claqué votre Prime? Vous avez lâché des subs? C'était le train de la hype?
Non mais attends, parce qu'on est regardé par des vieux, faut peut-être expliquer un peu.
Oui, donc voix off.
Twitch, c'est la plateforme de streaming en direct de Samuel Etienne, mais aussi de pas mal de monde, et depuis peu, le gouvernement s'est intéressé à ce nouveau canal de diffusion et a envoyé son influenceur en chef, Gabriel Attal.
Voilà, comme ça, ça présente aussi notre émission en même temps. Jean Massier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes youtubeur, twitcher politique. Alors vous, votre truc, c'est la pédagogie de la vie politique, notamment la vie parlementaire.
Ouais.
Vous commentez, par exemple, les questions au gouvernement, mais aussi vous interviewez des politiques, notamment des sénateurs.
Ouais.
Alors, ce qui est marrant avec vous, c'est que vous êtes un peu au carrefour de la confluence de différents univers, puisque vous êtes un peu l'ambassadeur de Twitch, je trouve, dans les médias mainstream.
Oui,
vous êtes
oui,
souvent
oui.
interviewé. Alors, c'est quoi Twitch?
Énormément.
Racontez-moi oui, oui. Twitch. Je vous ai même entendu répondre à des enfants l'autre jour sur France Info.
Sur France Info, oui.
Voilà. Et puis, vous apportez le monde politique avec vous sur la plateforme. Vous êtes donc au carrefour. Alors, exemple de ce que vous faites sur Twitch, là, c'était les dernières questions au gouvernement ce mercredi. Vous allez voir, ça fait penser à un commentateur sportif, un peu.
Madame la ministre, allez-vous enfin saisir l'inspection du travail pour protéger ses travailleurs plutôt que les plateformes?
Olivier Jacquin qui pose une question très intéressante. Olivier Jacquin, il a 56 ans, il est agriculteur et il a déposé une proposition de loi lundi justement pour agir sur la protection des salariés des plateformes. On parle bien des chauffeurs Uber, des livreurs Deliveroo, etc. Il y a une jurisprudence récente à la Cour de cassation qui reconnaît que ce sont des salariés, que ce sont de faux indépendants. Et donc, Olivier Jacquin qui demande la protection de l'État pour ses salariés. On écoute la réponse du gouvernement.
Qui contribuent à cette activité.
Voilà, ça marche comme ça. Monté, bonjour.
Alors, bonjour.
Vous êtes en visio, vous nous avez fait un magnifique fond tout à notre honneur. Alors, votre chaîne sur YouTube, c'est Linguisticae, vous êtes un fondu de linguistique. Vous faites des vidéos sur la linguistique. Par exemple, une des dernières, c'était sur le registre de langage de Aya Nakamura et la chanteuse Weijen. On voit un petit peu ce que vous faites là. Ce qui a attiré notre attention, c'est la série de tweets que vous avez, tweet roboratif, je dois dire, que vous avez écrit sur un objet dont on va aborder aujourd'hui, qui fait beaucoup parler de lui, c'est la fameuse vidéo de McFly et Carlito, les youtubeurs, commandés littéralement par Macron pour évangéliser la jeunesse sur les gestes barrières. Bonjour à tous les trois et merci d'être venus. Alors, on fait un petit détour avant de plonger dans le dossier par une des enquêtes de la semaine, que vous pouvez lire sur le site. C'est une enquête de Pauline Bock, que vous nous parlez depuis la rédaction, n'est-ce pas? Et vous avez analysé, Pauline, la couverture médiatique de la mort accidentelle du député LR Olivier Dassault. Et vous avez remarqué que dans les articles, il manquait quelqu'un, il y avait un grand absent en fait.
Oui, exactement. En fait, on a beaucoup entendu parler de la mort d'Olivier Dassault, qui est donc le fils de Serge, l'héritier de la groupe... Excusez-moi, l'héritier du groupe Dassault, qui détient notamment le Figaro. Mais on a beaucoup moins parlé de son pilote, notamment dans les médias. Tout le monde a titré sur la mort de Dassault, mais ni dans le chapeau, ni parfois avant plusieurs paragraphes, on parle du pilote qui était pourtant avec lui dans l'hélicoptère et qu'il pilotait d'ailleurs et qui est mort lui aussi. D'ailleurs, les médias ne le nomment jamais, presque jamais. Il s'appelait Jean-Claude Bedeau.
Voilà, et que sait-on de Jean-Claude Bedeau une fois qu'on s'intéresse à lui? Ce que vous avez fait, Pauline?
Alors, Jean-Claude Bedeau avait 74 ans. Il avait été commandant de bord pour Air France. Et il était aussi golfeur. D'ailleurs, il y a plusieurs de ses amis qui ont posté des photos sur les réseaux sociaux pour lui rendre hommage. Vous pouvez le voir à l'écran actuellement. Il pilotait souvent pour Dassault, il connaissait bien le terrain puisqu'ils se sont écrasés non loin de Deauville. Et en fait, d'après le magazine Le Point, ce qui s'est passé, c'est que c'est Dassault qui lui aurait demandé de se poser un peu à l'écart de la piste d'atterrissage, ce qu'on appelle la dropping zone, parce qu'il y aurait eu de la boue, en tout cas que le terrain était détrempé et qu'il ne voulait pas marcher dedans. Le problème, c'est qu'au décollage, le rotor s'est pris un arbre et l'hélicoptère s'est écrasé. Ce qui, pour Dassault, fait de sa mort un accident, mais pour celle de Jean-Claude Bedeau, en fait un accident du travail.
Voilà, alors retenez son nom, Jean-Claude Bedeau, hein, pilote décédé en compagnie de Olivier Dassault le 6 mars. Et pour lire l'analyse fouillée de Pauline sur la manière dont les médias ont raconté cet accident et la manière dont le pilote a été invisibilisé, ben vous allez tout simplement sur le site d'Arrêt sur Image. Merci beaucoup, Pauline. Alors le dossier de cette émission, la manière dont les politiques et notamment le gouvernement tentent de mettre la main sur les univers numériques animés et fréquentés par les jeunes générations, alors ça ne se passe pas toujours très bien. Le journaliste Samuel Etienne de France Télévisions, hein, qui s'est lancé sur Twitch avec une revue de presse, je ne peux pas croire que vous n'en ayez pas entendu parler, il est un peu dans la tourmente parce qu'il apparaît comme le cheval de Troie de la vieille politique. Alors il a reçu François Hollande récemment, il va recevoir Castex dimanche, peut-être même Marine Le Pen, alors qu'il avait dit le contraire. Alors pour commencer, on va regarder comment ça se passe une interview politique sur Twitch. Voici un extrait de ce fameux live avec Hollande. Et vous allez regarder, si vous n'êtes pas familier, que les questions envoyées par les internautes sont sur la droite de l'écran. On regarde.
Alors, j'essaie de remonter un petit peu les questions, parce que ça va à une vitesse folle ce soir. Vous êtes plus de 60 000, ce qui est énorme. OK, il y a des commentaires sur ce qu'on vient de dire, sur notamment Mitterrand. J'essaie de trouver une question qui nous changerait un petit peu de thématique. N'hésitez pas, François Hollande, si vous voyez une question dans le chat, parce que c'est ça, hein, qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous en saisir. OK. On prend le temps, il s'agit de prendre les évidemment qu'on ne peut pas prendre toutes les questions, donc on va en prendre quelques-unes. Vous en voyez une ?
Oui, j'en vois une. Dites. Quel est votre plus grand regret durant votre mandat ?
Oui, j'ai vu cette question.
Ouais,
Ah oui, c'est intéressant.
Ouais. Mon plus grand regret, c'est de ne pas m'être représenté d'une certaine façon.
Là, aujourd'hui, vous dites ?
Oui, parce que quand j'ai pris cette décision, je l'ai beaucoup réfléchi, et il y avait des raisons de la prendre.
Ouais.
Mais je l'ai prise trop tôt. Je l'ai prise au début du mois de décembre 2016.
Et après ?
Et toute la situation politique n'était pas encore décantée.
Voilà, bon, ça c'est un extrait évidemment, mais qui est quand même assez représentatif, hein, de l'ambiance qu'il y avait. Usul, vous l'avez vu, ce live ?
Oui, bah, je n'ai pas regardé en entier, je dois avouer, j'ai regardé une heure et quelques, bien. C'est pas mal déjà.
Vous en avez pensé quoi ?
Bah, c'est très représentatif, l'extrait qu'on a vu, déjà en plus il y a le fait que Hollande choisisse lui-même sa question, voilà. C'est cadeau. C'est très représentatif de cette absence de hiérarchisation totale. Des questions, des problèmes, bon, évidemment, on peut dire le ton un peu intime avec le président, vos plus grands regrets, machin, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu chez Karine Le Marchand, c'est quelque chose qu'on connaissait, mais là, vraiment, c'est le libre service des questions. Les questions sont pas, elles sont pas remises en perspective, il n'y a pas de relance, pourquoi pas, mais il y a le fantasme, en fait, le fantasme de la démocratie directe et de la question directe. Mais est-ce que la question, parce qu'elle est directe, elle est bonne ? Déjà, bon, en tant que journaliste, vous savez bien que, non, une question, ça se prépare, ça se travaille. Un entretien, pour être pertinent, pour accoucher peut-être de quelque chose d'intelligent et d'avoir autre chose que de la com, ça se prépare aussi. Même, on peut dire, au-delà de la hiérarchie, ça se construit. On peut arriver à un propos et à un entretien, ça se prépare. Moi, je crois que je fais justement des streams. Ceux qui me demandent le plus de travail et de préparation, c'est quand j'ai un entretien. Mmh. Alors c'est vrai que moi je laisse.
Vous absorbez pas simplement la matière première qui est des questions des internautes, mais.
Sinon on se retrouve avec des moments un peu comme ça, quoi. On est là
dans
le chat.
Qu'est-ce qu'on va faire ?
Alors, qu'est-ce qu'on pose comme question ?
Il a été question d'entrecôte frite, hein, d'ailleurs, dans cette émission. Jean Massier, votre appréciation de ce live avec Hollande, qui a vachement bien marché, d'ailleurs, il faut le dire.
Hein. Oui, ça a été un énorme succès d'audience, une des plus grosses audiences de l'année en.
Sur Twitch.
En langue française, en tout cas dans cette catégorie-là. Moi, j'ai trouvé que Samuel Etienne, il est en train de parachever le rêve ou le fantasme de la désintermédiation totale. Il y a un rapport absolument direct entre l'interviewé et le public. Le positionnement du journaliste est remis en question complètement, puisque là, il place l'invité directement face au public en lui disant « mais allez-y, répondez directement aux questions ». Et puis par ailleurs, le dispositif, pas que éditorial, mais aussi physique, est aussi en lien avec ça. C'est très transparent. On est littéralement chez Samuel Etienne, dans son salon, pour de vrai. Mm-hmm. C'est pas un plateau, c'est pas pensé comme ça. Et du coup, Samuel Etienne, en faisant ça, il va jusqu'au bout d'une des raisons aussi d'être d'Internet et dans son rapport à la politique, c'est de se passer des vieux médias traditionnels et de leur manière de faire classique. Samuel Etienne, il se trouve que c'est un journaliste depuis 25 ans, il en a fait des plateaux, il en a préparé des émissions.
Et des interviews politiques.
Et des interviews politiques, il en a fait un paquet. Et là, il essaye d'inventer autre chose, d'aller chercher autre chose, ce qui soulève tout un tas de questions absolument passionnantes.
Qu'on va essayer d'aborder,
tant mieux. Mais moi, je trouve ça assez intéressant, en tout cas.
Il y a une hiérarchisation qu'on pourrait percevoir comme positive. On dit toujours que les politiques, c'est l'élite, ils sont inaccessibles.
Les journalistes, ils sont méchants, ils ne représentent pas. Voilà. Non, mais il y a aussi quelque chose de vrai. Il y a quelque chose d'un peu gilet jaune aussi dans cette démarche de dire allez-y directement, parler aux politiques. On se retire, on s'efface, allez-y, parlez directement. Ça pose des questions, et je trouve ça intéressant, mais je ne renvoie pas ça d'un revers de main en disant que c'est pas bien, ou qu'il faut, y a un bon journalisme et un mauvais. Non, je trouve qu'il aille tente un truc, il va quelque part, que je prends avec moi plutôt d'enthousiasme, je trouve ça assez intéressant, et j'ai envie que ça continue.
Montez votre regard sur ce live.
Alors moi, j'ai quasiment tout regardé, à part peut-être le dernier quart d'heure ou les dernières 20 minutes, et... Effectivement, j'étais un peu gêné, notamment parce que je trouve que bon nombre de questions ont tout simplement été dépolitisées dans ce live. Ce qui, moi, évidemment,
vous pensez à quoi, par exemple
Vous avez tout simplement, par exemple, que, effectivement, entre l'entrecôte sauce béarnaise et le Perron, on a la loi El Khomri, où, en fait, on apprend qu'en fait... Ça a juste été mal compris, donc il n'est pas du tout fait mention du bilan, ni vraiment des mouvements sociaux, ni de ce que ça a pu susciter. C'est juste les Français ont mal compris, ce qu'il a répété, d'ailleurs François Hollande l'a répété à plusieurs reprises. Et il y a une forme de légèreté. Et d'ailleurs, une chose aussi, moi j'ai beaucoup regardé ton live aussi, Jean, hier soir, et il y a quelque chose, moi, qui m'a embêté, c'est quand Hollande affirme, alors que l'on sait, Samuel Etienne le dit par transparence, que François Hollande, en fait, s'est invité via son service com sur la lèvre de Samuel Etienne, il dit qu'il est complètement désintéressé, qu'il est dans une démarche complètement désintéressée, ce qui, je pense, n'est pas tout à fait la vérité, et à aucun moment, ce genre de choses n'est remise en question, c'est on passe à autre chose, on enchaîne.
Surtout quand il dit qu'il regrette de ne pas s'être présenté.
Je trouve que la transparence, elle n'est pas totale.
Il faut préciser pour ceux qui nous écoutent que hier, tu as fait un live avec Samuel Etienne, c'est de ce live dont parle...
C'est ça dont tu parlais. Oui, non, j'ai fait un peu mon arrêt sur image, du coup, hier, j'ai fait la critique média. Non, j'en ai parlé, j'ai proposé à Samuel de venir et qu'on échange à ce sujet-là, parce que je voulais surtout répondre à la montée des critiques de membres de la plateforme, d'habitués de Twitch vis-à-vis du politique sur Twitch. Parce que depuis un mois, c'est vrai qu'ils en ont pris un peu plein la tronche, donc je voulais aborder ça. Et c'est vrai qu'on en a parlé, et du coup, ça a été l'occasion pour moi de donner la parole à Samuel Etienne pour qu'il revienne un peu plus en profondeur sur sa démarche, pourquoi il le fait, comment il le fait. Et ça lui a permis, du coup, d'expliquer.
Vous avez désamorcé la crise un peu, alors, du coup, parce que...
Non, j'ai rien désamorcé. Non, j'ai rien désamorcé. Le pauvre Samuel, il s'en est pris plein la tronche et de manière assez injuste à bien des égards, mais pour autant, il en comprend aussi la critique. Et du coup, moi, j'étais content de pouvoir avoir cet échange un peu rapide avec lui pour en discuter.
Mais alors, justement, pour recontextualiser votre échange avec lui et la nécessité de le faire, d'ailleurs, je précise, je trouve ça très amusant sur Twitch, la manière dont il y a toujours des arrêts sur image, justement. Il y a de la mise en abîme permanente, quasi immédiate de ce qui vient de se passer. Je suis assez fasciné par
ça.
Je voulais juste qu'on montre les tweets fâchés des Twitchers, des internautes qui n'étaient pas contents que Samuel Etienne enchaîne après l'interview de François Hollande, enfin après le live, avec le live avec Jean Castex dimanche. Donc, par exemple, allez terminer, le mec était sympa avec sa vibe de boomer, mais là, participer activement à la com gouvernementale, c'est non, il parle de Samuel Etienne pour la vibe de boomer. Ou alors on a, c'est un unfollow direct, donc ça veut dire je regarderai plus, il ne mérite plus rien sur Twitch, toujours contre Samuel Etienne, retourne clairement sur France Télé, il manipule déjà pour les prochaines élections, donc je pense qu'il parle de Castex.
C'est hyper violent,
c'est vraiment un fourbe, rien à dire d'autre sur lui, sauf qu'il déçoit énormément de personnes. Non, peut-être qu'il parle de Samuel Etienne d'ailleurs, plutôt que de Castex. Enfin voilà, toute une série de tweets fâchés. Au point que Samuel Etienne s'est excusé, d'ailleurs, hein, pendant sa revue de presse quotidienne, c'était ce mercredi. Alors, il ne s'est pas excusé d'inviter Jean Castex, mais d'avoir enchaîné comme ça les lives politiques. Alors, regardez comment il en parle.
Je me suis dit, OK, un ministre, recevons un ministre. Moi, en tant que journaliste, ça me fait kiffer. Peut-être que vous allez kiffer de lui poser des questions. Et je me dis, tant qu'avoir un ministre, autant avoir le premier. Et donc, je me suis dit, allez, Jean Castex. Là, par contre, j'ai fait une erreur. C'est que j'aurais dû laisser la séquence Hollande passer. On était encore dans la séquence Hollande qui avait déjà bousculé plein de gens. Et j'annonce Jean Castex. Et pour plein de gens, moi, je ne l'avais pas compris à ce point-là. Et j'ai vu tout de suite les réactions sur Twitter. Et j'ai compris que pour plein de gens, c'était l'ennemi, quoi. C'était le gouvernement, c'était l'exécutif, c'était tout ce qu'il ne fallait pas sur Twitch. Et ça, j'ai vu plein de réactions comme ça. Plein. 70-80% des messages que j'ai reçus publics ou en DM, c'est ce que j'ai reçu. Bon, là, je me dis, OK, déjà, tu es peut-être allé un petit peu trop vite. Donc là, ce sera à refaire. Je laisserai passer un petit peu de temps.
Voilà, et puis juste après, vous allez voir, il explique pourquoi il trouve que c'est quand même une bonne idée d'inviter des politiques sur Twitch. Regardez.
Et à un moment, je me suis dit, et si je donnais la capacité aux gens qui sont avec moi, là, vous êtes un peu plus de 11 000 déjà, sur Twitch, et si je vous donnais la capacité à vous, citoyens, si je vous donnais le pouvoir de faire un truc que vous n'avez jamais pu faire, et si je vous donnais la capacité de vous interpeller les personnes, poser les questions, vraiment les questions que vous voulez. Je pense que des coups, quoi, des trucs, vous dire, demain vous pouvez discuter avec le Premier ministre, demain vous pouvez discuter avec le leader de la droite républicaine, c'est peut-être intéressant sur un plan démocratique. Qui va vous donner cette possibilité? Qui va vous donner cette possibilité? Aujourd'hui, moi je peux le faire.
Voilà, donc on est tout à fait dans le fantasme de la démocratie directe dont vous parliez, Jules. Alors, je sens une différence d'appréciation, parce que Jean, vous êtes assez... vous dites il ne mérite pas de se faire taper dessus comme ça, sa démarche est intéressante, et je sens que chez Usul et Monté, il y a la critique est plus grande. C'est quoi votre position par rapport à cette histoire de vous, c'est pour vous, moi je ne suis que le passeur comment vous sentez cette façon dont il défend sa démarche?
Moi, il y a beaucoup de choses. Tout à l'heure, passeur. Bon, oui, d'accord. Entre passeur et passe-plat, on voit aussi qu'il y a la nuance. Parfois, elle peut être
La marche.
Et c'est vrai que ce côté... Voilà. Alors, entre Hollande qui dit « on vous a mal expliqué la loi travail » et Samuel Etienne qui pense qu'en fait, il suffirait de mettre éventuellement les responsables politiques en face des... En fait, les gouvernants en face des gouvernés pour que le dialogue se fasse et pour qu'éventuellement les uns apprennent les uns des autres. Enfin, ça me paraît d'une conception un peu irénique, y compris de la démocratie, dont j'ai une conception agonistique. Pour moi, la démocratie,
c'est
le conflit, c'est le conflit entre des groupes qui ont des intérêts opposés, et on ne résout pas tout par davantage de démocratie, par davantage de dialogue et de raisonnement, et puis on va raisonner au calme, on va prendre 2h30, et si on explique bien, ça va bien se passer. Mais c'est un truc qui est très très fort chez les gouvernants. Quand Macron descend dans la rue et attrape quelqu'un par la veste, enfin pas exact, quelqu'un l'attrape par la veste et que lui dit « Oh là là, vous avez qu'à traverser le... » Voilà, il a cette idée aussi que… –
Traverser la rue pour trouver un emploi.
Ouais. – Voilà, il a cette idée que… Mais il suffit… Moi, je peux les convaincre. Et c'est normal, les politiques, c'est des séducteurs, quelque part. C'est dans leur métier, c'est leur ADN. C'est d'aller. Et parfois, ils n'ont pas peur d'aller au contact. Macron, quand il va dans la rue, il n'a pas peur. Oui, c'est plutôt ses équipes, à mon avis, qui doivent lui dire oh là, mollo, aujourd'hui, c'est bon, t'en as assez fait. Parce qu'il a un contact, quoi. Et on l'a vu même pendant la campagne avant, il est même bon à ça. Mais bon, quand ça chauffe un petit peu, il se dit encore qu'il peut y aller, qu'il suffit d'expliquer, qu'il suffit qu'il montre qu'il est sympa. Il y a encore ça un peu avec Hollande. Et voilà, Castex, là, c'était un petit peu la goutte de trop. Je ne vais pas trop parler, je vais vous laisser.
Mais non, parce que ton opposition, elle est avec l'invité, elle n'est pas avec l'intervieweur. C'est-à-dire que c'est la réponse de François Hollande sur la loi travail ne te satisfait pas, au demeurant pas satisfaisante, mais c'est sa réponse à la question. Et que la question soit posée par un jour.
C'est le fait que Étienne ne relance pas.
Mais encore une fois, à quoi. Enfin, je veux dire, relancer. Oui, je suis d'accord, il faut toujours faire des relances pour essayer de faire. Mais à quoi ça sert de faire une relance si c'est pour faire préciser un propos? Mais il faut pas faire. Enfin, je veux dire, l'invité, il est là pour exprimer son opinion, sa position. François Hollande vient expliquer que selon lui, le travail n'est pas passé parce que les Français n'ont pas compris. Donc, tact, on vous a entendu, monsieur Hollande. Passons à la question suivante. C'est vous qui le dites, c'est votre manière de voir les choses. Chacun en pensera ce qu'il veut. Je pense pas qu'il faille s'en prendre au format d'une interview quand simplement parce que les réponses de l'interviewé sont pas satisfaisantes d'un point de vue politique. Après, c'est mon rapport à moi à l'interview politique. Peut-être parce que je fais beaucoup d'interviews politiques.
Oui, mais on va en parler justement.
Mais parlons-en.
Mais montez votre point de vue là-dessus, sur ce que vient de dire Jean Massier.
Moi, je ne sais pas, parce que le problème n'est pas avec l'intervieweur. En réalité, si Samuel Etienne avait annoncé que ce qu'il ferait, c'est tout simplement recevoir des gens chez lui en toute bienveillance et qu'il recevrait tous les prochains, éventuellement, candidats à l'élection présidentielle, ce dont je doute d'ailleurs, hein, parce qu'il a dit qu'il voulait les grands représentants des différentes familles politiques. Donc déjà, ça circonscrit hein, déjà le champ politique. Il y a quand même un problème qui est que, par exemple, l'interview politique, quand c'est toi qui l'as fait, ne me pose strictement aucun problème, Jean, parce que je trouve que tu as cette capacité à... avec tes connaissances politiques, à pas forcément coincer les invités, mais à de leur demander plus de précision, à leur, un peu les pousser dans leur raisonnement, ce que Samuel Etienne, je trouve, ne fait pas. Et d'ailleurs, il l'a dit hier chez toi, il ne prépare pas ses interviews politiques, ce qui, selon moi, est une erreur, d'ailleurs, puisqu'en fait, je pense, quand un politique vient chez Samuel Etienne, il ne vient pas dans une démarche de dialogue, en tout cas pas pour le moment, ça évoluera peut-être. Il vient dans une démarche de profiter de l'image de quelqu'un qui est extrêmement bien perçu et qui fait des statistiques sur Twitch qui sont démentielles en réalité. Bien je pense sûr, qu'elle oui, est là la différence, tout oui, simplement. Bien sûr. Après, moi, j'ai un problème effectivement avec l'interviewé de toute façon, mais en fait, le live me l'a rendu tellement sympathique que je me suis senti un peu trahi, même d'ailleurs, pour être honnête.
Trahi par qui? Quand vous dites
par François Hollande, j'avais presque envie de revoter pour lui, comme je l'avais fait au deuxième tour en 2017, alors qu'en fait, je ne suis absolument pas satisfait de sa politique, mais le coup des entrecôtes, ça m'a plu, je dois bien le dire, quoi. Je pense comme tout le monde, et donc, en fait, on est au-dessus de rien. Évidemment que François Hollande, quand il vient chez Samuel Etienne pour dire son plus grand regret, c'est de ne pas s'être représenté, qu'il n'exclut pas de se représenter un jour, mais qu'il vient dans une démarche complètement désintéressé, mais qu'il défend en fait une vision qui est la sienne sur tout un tas de choses comme la dette, la loi travail, les institutions, comment est-ce qu'il faudrait changer le rôle du Premier ministre, etc. C'est des choses qu'il a abordées. Moi, effectivement, j'aurais aimé plus de recontextualisation. Il y a beaucoup de vérités générales qui, en fait, ne sont pas des vérités, sont des faits idéologiques, sont des prises de position et qui auraient dû être identifiées comme telles, quitte à passer à autre chose ensuite.
C'est l'expression d'un invité politique, effectivement. Oui, les hommes politiques viennent sur nos plateaux, viennent dans nos interviews pour exprimer une opinion, un angle, une manière de voir les choses. Et je suis pas sûr que le but d'une interview soit de faire triompher absolument une espèce de vérité éternelle.
Ils viennent aussi faire de la com, et le but d'une interview, absolument, c'est de trier la com des faits, quoi.
De faire accoucher.
Ou alors c'est d'être lucide sur le fait qu'il y a une partie de communication, mais c'est de se dire, ok, aujourd'hui c'est ce que vous dites, très bien, on vous a entendu, on passe à la... C'est vraiment... Après, c'est ma manière à moi de faire des interviews.
Mais alors justement, ce que je trouve amusant dans cette histoire, c'est que Samuel Etienne, au fond, il prend littéralement le concept de Twitch en se disant, je pose les questions que les internautes m'envoient, pas de filtre, pas de relance, etc. Alors que vous êtes dans la démarche un peu inverse, vous venez de Twitch, vous allez vers les médias classiques.
Je suis même pas journaliste.
Et c'est pas journaliste, mais enfin vous l'êtes un peu de fait. Hein. Maintenant, c'est difficile de dire que ça y ressemble beaucoup. Vous avez une émission en partenariat avec Public Sénat et sur Twitch, donc hein, les deux en même temps. On va regarder comment vous alternez. Alors justement, c'est la différence entre les questions de votre cru et celles qui viennent des internautes, un petit montage.
On parlait de candidats emballants. Y a-t-il un candidat que vous trouvez emballant pour 2022, Philippe?
Connaissez-vous les candidats de 2022?
Mais justement, profitons-en, on ne les connaît pas encore. Y a-t-il une personnalité publique capable d'unir la droite? Une question très simple qui m'a été posée pour vous par Neumayr qui dit « Aujourd'hui, est-ce que c'est bien utile d'avoir deux assemblées, deux chambres du Parlement, Assemblée nationale et Sénat ?» Vous avez été président de la commission des lois du Sénat et à ce titre, vous avez présidé la commission d'enquête sur l'affaire Benalla. Ça vous a valu une certaine célébrité, une certaine notoriété à ce moment particulier du quinquennat de François Hollande. Avez-vous eu l'impression d'être le premier contre-pouvoir que rencontrait le nouveau président Macron, pas Hollande, pardon? Une question de Liquid qui vous demande quelles sont les relations entre le Sénat et l'Élysée depuis cette commission d'enquête? Est-ce que ça va mieux?
Honnêtement, les institutions...
Ça a été tendu quand même.
Oui, mais ça ne marche pas à l'affect.
C'était Philippe Bas, hein, donc le sénateur qui avait présidé la commission sur Benalla. Alors moi, ce que je trouvais amusant, puis on va regarder des images pour l'illustrer, c'est que, toujours dans cette même idée, visuellement, ça se voit, parce que Samuel Etienne, il est collé à François Hollande, ils sont tous les deux face à l'écran, donc il n'y a pas de confrontation visuelle, hein, ils sont tous les deux, ils regardent dans la même direction, et il n'y a pas de distance, je veux dire au sens purement géométrique, alors que vous, ainsi d'ailleurs que je trouve un autre youtubeur, Hugo Décrypte, voilà son nom m'échappait, au contraire vous avez reproduit, enfin vous utilisez le bon vieux studio télé, alors qu'on est sur Twitch, avec des fauteuils, il y a de la distance. Donc je trouve que le dispositif dispositif là illustre le fait que vous avez paradoxalement décidé de vous défaire de la proximité que Twitch pourrait impliquer, en tout cas par rapport à Samuel Etienne, c'est saisissant.
Je l'ai dit à Samuel, je ne recevrai pas de politique chez moi.
Alors c'est pas seulement chez lui, c'est collé à lui en regardant
collé
l'écran.
Collé à lui, encore la limite, je sais pas trop. C'est vrai par contre effectivement qu'il y a un dispositif de plateau qui est créé et qui répond à une logique éditoriale. Effectivement, il y a une proximité. Enfin, j'ai quand même créé ce plateau avec l'idée d'essayer d'en faire un espace cosy.
Oui, parce que avec des bons fauteuils en cuir.
Avec des bons fauteuils en cuir, dans le but que mon invité soit avachi. Ça a été compliqué.
Avachi ?
Oui, je voulais avachir. Parce que je voulais précisément que mes invités ne se sentent pas exactement comme je suis en train de me sentir, sur une chaise le dos droit, sur un plateau dans lequel je me mets sans faire attention à utiliser un langage d'expression, de représentation de moi-même. Je voulais volontairement mettre les sénateurs dans un contexte très détendu, pour un peu les duper,
qui s'abandonnent.
Et je le sens, ça fait 2 ans et demi que je fais cette interview, j'en ai interviewé une 60aine de sénateurs, ils ont les muscles du dos qui se détendent au fur et à mesure de l'émission, et à la fin, ils ne parlent plus du tout de la même manière qu'au début de l'émission. Et moi, c'est ça que je vais chercher cette espèce de moment où les politiques arrêtent d'en être et commencent à devenir un peu des êtres humains. Pour aller un peu au fond des trucs.
Ils sont toujours politiques, attendez,
Oui, mais je trouve que j'arrive un peu à réussir à déclencher ce petit truc-là. Et j'en suis assez content parce que c'est ce que je voulais faire. Mais donc, tout ça pour dire que je suis d'accord avec vous, c'est vrai que j'ai créé un plateau, que je n'irai pas. François Hollande, il a gardé son costume et sa cravate, il avait beau être à côté de Samuel Etienne, on était quand même sur un François Hollande.
Oui, mais regardez Hugo Décrypte, par exemple, parlant à Frédéric Vidal, on sent quand même la confrontation, je ne suis pas sûre qu'elle était.
Alors lui, il a fait la confrontation, voilà. c'était un objectif éditorial qui était Frédéric Vidal face au public, face au...
Usul, je vous vois écrire, je suis sûre que vous voulez
dire quelque chose. C'est marrant, en effet, nous qui essayons du coup de faire des trucs propres.
des trucs de journaliste.
Mais parce qu'en fait, on veut légitimer notre champ, on veut légitimer notre espace et là où lui arrive dans un espace qui est déjà légitime, dans un espace où il se dit c'est beaucoup plus détendu,
c'est super sympa,
mais c'est tellement détendu que je vais même pas préparer l'interview, j'ai passé 25 ans de carrière à préparer mes interviews, mais je vais même plus le faire. Et puis si on se met dans la cuisine, enfin si on se met là, mais si, il y a un peu de ça, il y a des artifices qui produisent du naturel. Il y a du cachet qu'on ne voit pas aussi, qui contribuerait à re-rendre à François Hollande, à montrer François Hollande tel qu'il est, c'est-à-dire un ancien chef d'État. Ce qu'on ne voit pas, par exemple, et ce que Samuel a évoqué hier chez toi, c'est les gardes du corps qui sont derrière.
Qui sont dans le salon,
qui sont dans le salon. Voilà, c'est tout des trucs qu'on peut supposer qu'ils soient en loge dans un plateau télé. Il n'y a pas de problème, puis le plateau télé rend... tout sérieux. Là, ça a l'air détendu. Les gardes du corps pourraient randonner une petite ambiance un petit peu. Oui, quand même, c'est François Hollande, quoi. Mmh. Quand même, c'est un chef d'État.
Mais surtout, à un moment, il y a le petit garçon. Il parle à son petit garçon, parfois, Samuel Etienne. Il lui dit attention, on ne débranche pas la prise. Oui. Bon, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a toute.
Il y a un mélange, du coup, de. Voilà, il y a une arrivée de. Il y a un côté décontracté, mais qui est presque un peu du décontracté. Voilà, c'est ça qu'ils viennent chercher, les politiques.
Mmh. Il y a quelque chose de très intéressant dans ce que dit Usul, c'est le caractère de légitimation. C'est vrai qu'il y a une différence fondamentale entre Samuel Etienne et moi. Et nous, c'est que Samuel Etienne est un animateur de la télé, de la bonne vieille télé légitime, comme tu dis, avec le mot que tu utilises, installé dans le paysage et qui n'a plus grand-chose à prouver. Samuel Etienne est un aventurier qui vient sur une plateforme et il le fait avec beaucoup de plaisir et je trouve ça vraiment génial ce qu'il fait pour cette raison-là. Et il le fait en allant chercher justement, il va au bout du bout du bout du bout de « j'ai même pas pratiquement pas de décor, je me fais pas chier », alors que nous, quand on fait des émissions, quand je fais des émissions politiques, moi, peut-être que je suis dans une quête de légitimité et que donc je me fais chier à faire un beau plateau. Et ça me coûte des dizaines de milliers d'euros. Parce que c'est de la prod audiovisuelle, que ça coûte un bras. Mais j'ai l'impression de faire ça parce que j'ai envie de légitimer ce que je fais en disant mais c'est aussi sérieux quand nous, les jeunes, on parle de politique. Oui, on peut être en t-shirt et parler du Conseil européen. Non, ce n'est pas réservé à des gens à la télévision, en costume cravate sur des grands plateaux et sur des grandes chaînes hertziennes ou TNT. Quoi.
D'ailleurs, autre nuance.
Mais c'est intéressant parce que ça me fait réfléchir à ça. Et j'ai d'ailleurs pas mal de gens qui me disent. Pourquoi est-ce que tu te fais chier à ce point-là? Pourquoi tu cherches à légitimer ce que tu fais? T'en as pas besoin.
T'as pas seulement préparé tes questions face à Philippe Bas. On a vu les questions que tu choisis de ton chat. T'as même préparé ton chat à partir de... Grâce aux années de travail que t'as fait avec ta chaîne, avec ton chat, tu arrives avec un public qui n'est pas... un public sauvage, quoi, qui est un public qui arrive, qui a des questions comme ça, qui lui viennent sur le bicaméralisme.
Qui sont des super questions, hein. Il faut le dire, vous recevez des super questions.
Oui, je reçois des super questions parce que alors, attends, je vais quand même préciser. Mes interviews de sénateurs, je les fais en les préparant la veille, en fait, avec le chat, où je dis demain, je reçois tel invité. C'est vachement intéressant.
Donc, les questions que vous posez, vous les avez reçues la veille,
celles
en fait.
Celles que j'ai sur mon iPad, oui, l'invité et moi, on a quand même le chat devant les yeux et je prends aussi des questions en direct.
Okay, okay.
Mais quand je dis que je prépare mon interview, c'est qu'en réalité, la veille, je fais un stream et au cours de mon stream, je dis à mon chat, voilà, demain, on reçoit un tel. C'est une super intéressant qu'on le reçoive pour telle et telle région, je pense, parce qu'il a fait ça et il bosse là-dessus. Du coup, allons-y, vous voulez parler de quoi avec lui? On y va. Et là, je prends des notes. Je fais du copier-coller, en fait, des questions en disant, ah oui, vous voulez qu'on aborde ce sujet-là? Ok, je peux le mettre. Et en fait, ensuite, je prépare mon interview d'un point de vue de timing et de tempo. Ça, c'est votre rôle là aujourd'hui. Vous êtes le gardien du temps. Voilà. Donc moi, je peux pas me permettre de faire comme Samuel Etienne.
On
va avancer. Donc voilà. Et ensuite, l'interview que je fais, elle arrive après 2 heures d'émission au cours de laquelle on a déjà parlé de l'actualité du Sénat. Donc mon public, il reçoit pas un invité qui vient de nulle part. Là, ça fait 2 heures qu'on est dans l'ambiance de l'actualité sénatoriale, que je leur ai reparlé du Sénat, de son rôle, etc.
Mais vous avez dit ça, Samuel Etienne, il sait tout ce que vous faites. Moi, je trouve que c'est ce qu'il devrait faire au fond. Enfin,
Non. Il y a pas de comparaison entre Samuel Etienne et moi. On a deux dispositifs éditoriaux différents. On répond à deux logiques différentes. On fait un métier qui est similaire, mais qui est pas exactement le même. On n'a pas la même manière d'aborder notre public parce qu'on n'a pas la même histoire. On vient pas du même.
Surtout lui, c'est plus marrant pour lui, cette spontanéité, c'est ce qu'il vient chercher.
C'est ce qu'il vient chercher, voilà. C'est ce que disait Jules, il en a préparé 8000, lui, des interviews politiques, il n'a plus envie de le faire.
Alors paradoxe, c'est tout à fait vertigineux, je trouve, ce paradoxe. Alors, deuxième objet d'intérêt pour nous aujourd'hui, le travail du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. On va remonter un peu en arrière, on est le 24 février dernier, dans un décor somptueux, élyséen, on se retrouve dans la situation inverse, c'est-à-dire que ce n'est pas un Twitcher ou un journaliste qui invite un politique sur Twitch, c'est le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui invite, ses propres intervieweurs triés sur le volet, en l'occurrence des influenceurs venus de YouTube, de Instagram, du monde du podcast. Il y a aussi un chroniqueur de chez Hanouna. Alors, ce n'est pas nouveau parce que Attal, vous savez, multiplie les échanges avec des influenceurs depuis cet automne, qui portent beaucoup sur les jeunes face à la crise sanitaire. Le contexte de la crise sanitaire, d'ailleurs, et les risques pour la popularité du gouvernement expliquent pour beaucoup cette démarche. Alors, Adèle Bello a compté 11 lives sur Instagram en 4 mois de Gabriel Attal. Et je vais vous dire, il est trop sympa, Gabriel Attal. Regardez.
C'est bon, vous m'entendez?
Oui, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir, monsieur le ministre.
Salut, Gabriel.
Bonjour, Emma.
Bonsoir, Gabriel.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Très bien, et vous?
Bonsoir.
Bonsoir.
Enchanté.
Yo!
Damn, la Team Shape. Salut.
Moi, c'est Sol.
Dis bonjour.
Oui, bonjour.
Tu t'appelles comment?
Est-ce que je vous tutoie ou est-ce que je vous vois?
Tu peux me tutoyer comme ton frère.
Ah, merci.
J'ai des restaurateurs dans ma famille. Mon petit cousin, il a ouvert sa crêperie à Paris il n'y a pas très longtemps. J'ai des amis qui ont eu le Covid au printemps dernier et qui n'ont toujours pas retrouvé, 8 mois après, le goût et l'odorat. Moi, j'ai 2 petites sœurs, 1 grande sœur. Je peux vous dire que parfois, elles ont peur quand elles rentrent de soirée, elles ne se sentent pas en sécurité. Moi, tu sais, j'ai un petit frère de 7 ans, c'est pas simple pour lui. J'ai grandi avec mes sœurs, on jouait avec une Nintendo 64, je sais pas si ça te parle.
Ah.
Moi aussi, je l'ai eu. Alors moi, c'est un peu différent.
Vous l'avez eu aussi ?
Moi, je l'ai eu sans aucun symptôme.
Nos parents sont aussi aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais globalement, c'est...
Je crois que ma mère nous regarde.
Comme les jeunes. Comment ?
Je confirme, je crois que ma mère nous regarde d'ailleurs.
Voilà, je crois que ma mère nous regarde. Alors, dans l'ordre d'apparition des youtubeurs Fadel, Emma Cakeup, Major Mouvement, qui est un kiné youtubeur, Gloria NBR, le fameux Thibaut InShape, youtubeur sport, dont on a beaucoup parlé à Arrêt sur Image, parce qu'il a déjà fait des partenariats avec des ministères, Néo et Swan, des enfants youtubeurs joués, la célébrissime Enjoy Phoenix, et une youtubeuse, future médecin, ancienne Miss France, Marine L'Orphelin. Voilà. Alors, c'est l'apothéose à l'Élysée le 24 février. On s'arrête sur le décor un petit peu, si on peut le voir. Hein, très mauvais éclairage, des néons pour faire jeune. Alors c'est une nouvelle émission que Gabriel Attal a initiée, s'appelle Sans filtre. Alors Sans filtre, c'est très intéressant comme titre, c'est surtout sans journaliste, sans questions pénibles. Cela étant, la tâche n'était pas si simple. Regardez comment le chroniqueur de Cyril Hanouna, qui était invité, Malek Délégué, regardez comment il interpelle Gabriel Attal sur la situation des étudiants.
Un pauvre sur deux, pardon, qui a moins de 30 ans. Et un jeune actif sur 4 qui ne travaille pas. Ça, c'est les chiffres de fin 2020. La crise sanitaire ne va faire qu'aggraver les choses. Le RSA, c'est 564 euros. On ne parle pas de donner 2000 balles à un jeune tous les mois. C'est 564 euros pour sortir la tête de l'eau et pour pouvoir survivre. Parce qu'avec 564 euros, on ne vit pas. Et aujourd'hui, quand je vois en France, en 2021, on a vu sur les images de Brut, de Rémi Buzyn, des files d'attente avec l'association Linky qui file des colis alimentaires. On en est là à dire aux jeunes, on va vous filer un colis alimentaire. Le président, il a dit, quoi qu'il en coûte. Et il a dit, pas de génération sacrifiée. Moi, je vois une génération sacrifiée et on ne veut pas leur filer un RSA. Alors, ça, c'est une question de philosophie. Chacun le voit comme il veut. Mais aussi parce que ça va peut-être coûter de l'argent. Ben voilà, moi, ça me dérange.
L'objectif, ça doit être quoi ? Ça doit être de les aider à se former, à s'insérer et les aider à trouver un boulot. Et en attendant, de leur apporter une aide financière qui est équivalente.
Oui, dans l'immédiat.
Dans l'urgence, Gabriel, je vais parler très vulgairement et je m'excuse. On est à l'Élysée, je vais parler vulgairement. Il y a des gens qui crèvent la dalle. Moi, leur offrir sur du moyen long terme une formation, un emploi, mais bien évidemment. Mais moi, je connais aucun jeune de 20 ans qui veut rester à se tourner les pouces. Alors, il y en a sûrement, mais la grande majorité.
Mais on agit dans l'urgence.
Je te défie d'aller dire à un jeune aujourd'hui. Il n'y a pas de génération sacrifiée. C'est un ressenti général, vraiment. J'entends, je ne dis pas que rien n'est fait. Beaucoup de choses sont faites, mais dans la réalité, dans le ressenti du terrain, ce n'est pas assez. Ça, c'est une photo que j'ai trouvée sur Twitter. Je n'ai pas dû chercher très longtemps. C'est la tronche des repas à 1 euro. Est-ce que le porte-parole du gouvernement, quand il voit ça, il a donc 31 ans, c'est ça ?
J'ai 31 ans.
31 ans. 31 ans. Bon, ben, les étudiants, ils sont pas, enfin, ils ont quelques années d'écart avec toi. Il mange ça.
Bon, voilà. Bon, c'est pas mal quand même. Enfin, là, il n'était pas tout à fait dans la ouate.
On peut pas dire qu'il n'y avait pas de contradiction sur son plateau.
Voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette... Vous l'avez vu, ce live ?
Oui, j'ai fait une émission dessus, du coup, je l'ai vu. Il y avait à boire et à manger, il y avait de bonnes interventions. La particularité qu'il a, Malek, c'est qu'il est habitué des plateaux.
C'est un professionnel, quand même.
Voilà, c'est un professionnel. Ouais. Il bosse, je crois, sur son Twitter, il est marqué « comme politique ».
Il était communicant politique, oui, exact. Voilà. Ouais.
Donc, c'est quelqu'un qui... c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est le meilleur sur le plateau.
Absolument.
Enjoy Phoenix, ça commence à être expérimenté.
D'ailleurs, on va regarder un tout petit peu dans Joy Phoenix. Elle critique même le dispositif. On l'écoute.
Moi, ma question, c'est même pas ma question parce qu'en soi, je suis juste porte-parole. Moi, je suis pas journaliste. D'ailleurs, je trouverais ça super que la prochaine fois, il y ait un journaliste qui soit là pour rétorquer parce que c'est pas mon métier. Moi, je viens juste pour poser les questions que ma communauté aimerait mettre en avant. Je suis désolée, je vais faire la rabat-joie, mais il est 20h22.
Oui, je crois que ça coupe automatiquement là.
Finir sur des bonnes nouvelles.
Ouais, si je peux juste me permettre, je pense que ce serait super intéressant. Déjà, merci de nous avoir tous invités. Le format est vraiment chouette, ça donne la parole à tout le monde, c'est vraiment cool. La prochaine fois, invitez un journaliste, un étudiant, quand on parle d'un sujet, autant qu'il y ait un étudiant qui soit concerné.
Donc, la prochaine fois, invitez un journaliste. Alors, je vous ai un peu coupé, mais finissez sur ce live, alors.
Je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais on voit que aussi Enjoy Phoenix, qui a déjà fait ça, qui a fait un peu différent. Elle a fait une journée avec Brune Poirson aussi. Elle commence à avoir aussi écouté des critiques et à voir aussi que... de toute façon, il y a eu un hashtag directement après l'émission qui s'appelait « étudiants pas influenceurs ». Voilà, où des gens ont gueulé en disant « ça ne nous représente pas ». Je pense pas que le but, c'était de les représenter vraiment, les jeunes. Mais c'était de leur parler, en tout cas. Moi-même, j'ai construit mon émission là-dessus en disant, évidemment, que les influenceurs ne représentent pas les jeunes ni les étudiants. Ils n'ont pas le même niveau de vie. Ils ont pas
surtout ces influenceurs-là, qui sont riches, disons-le.
Surtout ceux-là, qui sont fatalement, ils n'ont pas... c'est les influenceurs, j'allais dire, de droite, les apolitiques, ou le moins... du coup, j'avais dit que si on voulait vraiment représenter les jeunes, il y a des trucs qui représentent les jeunes, c'est les syndicats étudiants. Fallait recevoir les syndicats étudiants, ça aurait eu de la gueule, ça, sur Twitch. Je prends tous les syndicalistes étudiants qui viennent, je les reçois à l'Assemblée, ça aurait eu de la gueule. Ouais. Mais on voit bien que ce n'est pas le but de l'exercice.
Non, c'est l'idée inverse même. Ouais.
Voilà, le but de l'exercice, c'est quand même de faire de la communication auprès de figures que les jeunes connaissent. Il y a cette certitude qu'il est plus facile de passer des messages. Parce qu'en fait, c'est ça, il y a toujours une ambiguïté, notamment avec Gabriel Attal, mais c'est vrai aussi, on en parlera plus tard pour McFly et Carlito, entre qu'est-ce qui est de l'information. Pour les jeunes, il revenait beaucoup sur le fait que les jeunes ne sont pas toujours informés des dispositifs. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'on investit tant dans les jeunes chaque mois. Il y a des dispositifs pour les entreprises. Donc, il y a un décalage entre le... Voilà, il essaie de faire passer de l'information. Donc, après tout, on peut la faire passer comme on veut, mais pas nécessairement du débat contradictoire, pas des idées politiques. Il sait que les jeunes se méfient des idées politiques et c'est pour ça, justement, qu'en face, il prend des influenceurs qui, eux aussi, se méfient des idées politiques.
Et donc c'est pour c'est ça. Hein.
Mais oui, non, mais c'est pas absurde. C'est pas, fondamentalement, c'est pas absurde. Il y a aussi il y a aussi une réflexion de dépassement des intermédiations ou des influenceurs.
Dépolitisation aussi.
Dépolitisation, je sais pas, parce que moi, démocratiquement, je lutte contre l'idée que la politique doit être réservée à des personnes qui en font, qui sont représentants légitimes et légitimés. Je pense qu'une...
Vous voulez dire même des leaders syndicaux,
Je pense qu'une influenceuse beauté est parfaitement légitime à poser des questions au porte-parole du gouvernement. Moi, je n'ai rien à lui dire en disant non, attends, non, laisse parler l'autre. Non, non, elle a le droit, et j'ai beaucoup de respect d'ailleurs pour le travail que fait Marie.
On ne parle pas du droit d'Enjoy Phoenix d'être là ou pas. Hein. Moi, au contraire, j'ai trouvé qu'elle était
intéressant, mais je trouve ça même intéressant qu'elle-même soit dans une logique d'autocensure en disant mais moi je représente rien ni personne. Elle a l'impression qu'elle s'exclut en disant il faudrait faire venir des journalistes. Moi je suis pas sûr qu'il faudrait faire venir des journalistes.
Mais c'est parce qu'elle sent les limites de l'exercice quand même.
Et je le comprends et elle a raison. Mais et d'ailleurs encore une fois je trouve que l'exercice là les personnes sur le plateau j'ai pas l'impression qu'ils étaient complètement convaincus par Gabriel Attal à la fin. Vous l'avez vu Malek, vous avez vu Joy Phoenix. Enfin je veux dire voilà ça a cogné à certains moments sur ce plateau. Encore une fois est-ce que c'était suffisant? Les opposants diront que non. Peu importe c'est pas grave. Mais je comprends aussi cette logique de désintermédiation de dire non mais les influenceurs aussi peuvent échanger avec leurs ministres.
Mais là, le problème, ce n'est pas les influenceurs. C'est parce que d'ailleurs, si les influenceurs veulent parler de politique, ils ont justement, eux, des canaux et des trucs pour déjà le faire. Ils ont des chaînes, ils ont des communautés. Mmh. Bon, s'ils ne le font pas et qu'ils ne le font que quand on les appelle, c'est bien que ce n'est pas leur préoccupation principale non plus. Là, il y a un effet d'opportunité qui est créé par qui? Par Gabriel Attal. C'est lui le sujet, ce n'est pas tellement les influenceurs.
Remarque, je suis d'accord avec toi parce que pourquoi les influenceurs demandent à leur communauté qu'est-ce que vous voulez que je pose comme question, du coup, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise au porte-parole du gouvernement et du coup, les influenceurs lui répondent. Les influencés. Leurs followers leur répondent. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, ils répondent à leur influenceuse préférée sur Instagram. Ils vont pas aller voir l'UNEF en disant est-ce que vous pouvez dire au gouvernement que ça va pas ma situation. Et ça, démocratiquement, je trouve ça intéressant.
Mais on
est toujours dans une logique de oui, mais enfin, effectivement, par Gabriel Attal, là, légitime d'autres canaux de représentation. Et c'est ça qui est intéressant. On est encore une fois dans une logique de recul des corps intermédiaires que sont les syndicats, les organisations.
Est-ce que ça creuse, ça accentue ou ça comble? Enfin, je veux dire.
Ça va dans le sens. De cette logique. Et cette logique, encore une fois, attention, parce que la fin des corps intermédiaires, ce n'est pas que le fait du pouvoir. C'est aussi un mouvement profond dans la population. Le mouvement des Gilets jaunes, lui aussi, a porté une forme de revendication de ça. Il y en a marre de ces intermédiaires.
Et même le symptôme de ça aussi.
Et aussi le symptôme, c'est très intéressant. Je dirais, on ne va pas refaire l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, qui disait aussi quelque chose de ça. Je pense que Gabriel Attal, ce qu'il fait, est en plein dans l'année 2020-2021. On est au croisement d'un moment qui soulève beaucoup de questions, que j'accueille pas seulement avec beaucoup d'enthousiasme, mais que je rejette pas non plus d'un revers de main, parce que je pense qu'il fait quelque chose d'intéressant aussi, Gabriel.
Montez sur ce live d'Attal que vous avez regardé.
Alors moi, je n'ai pas regardé le live, si ce n'est quelques extraits, mais je pense que, de toute façon, je vais être d'accord avec Usul. Bon, j'ai vu sa vidéo et je trouvais son analyse très pertinente. Après, effectivement, moi, ce qui me fait poser des questions... Enfin, quand Jean, tu dis effectivement que c'est intéressant de faire appel à des influenceurs puisque ça participe à la logique de désintermédiation... C'est un mot très chiant. Je vais pas le dire. Je vais juste pas le dire.
Redis-le
je
le
pense
mot.
Aussi, tout simplement...
Désintermédiation.
Bien, bravo à toi. Il y a quand même une logique qui est de faire intervenir des influenceurs à de très grosses communautés et dont la vie politique, effectivement, n'est pas connue, en fait, en réalité. Et ça fait un peu, je trouve... Enfin, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas une tentative de cheval de Troie, tout simplement? Enjoy Phoenix nous montre qu'en réalité, effectivement, elle a été probablement moins conciliante sur ce plateau qu'elle a pu l'être sur Instagram ou qu'elle a pu l'être avec Brune Poirson quand elle avait fait sa vidéo.
Oui, une
ce qui est effectivement très intéressant.
C'est bien le progrès. Enfin,
oui, il y a une politisation, c'est la politisation d'Enjoy Phoenix.
Il y a une conscientisation.
On assiste à ça, au fond.
Ah oui, oui.
Montez.
Je pense, hein, de toute façon, de fait, hein, même si jamais ce n'est pas ce qu'elle voulait, enfin, il faudrait lui demander à elle, mais même si ce n'est pas ce qu'elle souhaitait à la base, de fait, c'est ce qui est en train de se passer, parce que la politique, de toute façon, c'est partout, hein, c'est en réalité. Hein, la position de la politique, c'est une position qui est très compliquée, hein, je trouve. Hein, c'est impossible. Hein.
On peut même faire le parallèle avec Samuel Etienne, entre Enjoy Phoenix et Samuel Etienne, des gens qui sont un peu déracinés de leur truc d'origine, qui, dans un premier temps, vont commettre des maladresses et des boulettes, et qui vont apprendre, et qui vont constituer ces passerelles. Donc Samuel Etienne, entre le monde médiatique mainstream et la plateforme Twitch, ou Enjoy Phoenix, entre voilà, les Instagrammeurs, influenceurs, et le monde politique. Manifestement, ça a l'air de l'intéresser.
Donc, et je trouve ça génial. Moi, je trouve ça génial. On est en train d'assister en direct à la conscientisation d'Enjoy Phoenix. Et moi, je trouve ça très chouette. Enfin, vraiment. Après, c'est parce que ça fait 5 ans que je me bats pour que les gens se conscientisent et aiment la politique. Donc, moi, je trouve ça absolument formidable. Mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est assez intéressant. Et pour autant, on progresse tous aussi. Enfin, moi aussi, je ne fais plus du tout mes interviews de la même manière qu'il y a 4 ans. Hugo Décrypte, j'en ai parlé avec lui. Lui aussi évolue dans sa manière d'interviewer. Et je pense qu'on progresse tous collectivement.
Alors, précisons quand même que ce live a fait débat dans la mesure où le CSA ne contrôle pas ce qui se passe sur Twitch et qu'on imagine, quand on rentrera en période électorale, que le gouvernement va pouvoir profiter de cet espace non contrôlé en termes de temps de parole pour faire passer tout un tas de messages. D'ailleurs, j'ai demandé au cabinet Attal, parce qu'il avait été question du fait que la vidéo a été diffusée uniquement sur le compte privé de Gabriel Attal. Du coup, on avait l'impression que l'argent public servait au fond à alimenter le compte privé du porte-parole. Bon, le cabinet Attal m'a dit que, et j'ai vérifié, c'est vrai, que ça avait été partagé depuis la zone, je vous cite, communauté des comptes YouTube de l'Élysée et du gouvernement.
Donc, oui, c'est quand même sur le compte YouTube mais et le compte Twitch de Gabriel Attal.
Absolument, voilà. Et quant au budget, j'ai demandé le budget au cabinet Attal parce qu'il me semblait que c'était intéressant, étant donné que c'est de l'argent public. Et on me répond, nous n'avons pas l'habitude de communiquer ce genre de budget, que ce soit pour une conférence de presse, un événement ou un compte-rendu du Conseil des ministres. J'ai trouvé que ce n'était pas tout à fait la même chose. Mais voilà la réponse qui m'a été faite. Alors, on aborde le troisième gros morceau, troisième objet passionnant de cette émission, c'est la fameuse vidéo des youtubeurs, pardon, McFly et Carlito. Alors, deux youtubeurs à succès, des youtubeurs rigolos. Macron leur a demandé, en faisant une vidéo selfie, une vidéo incitant au respect des gestes barrières. Et il leur a dit, il faut que ça fasse 10 millions de vues. Et si ça fait 10 millions de vues, en échange, vous pourrez venir tourner une vidéo à l'Élysée. Alors, on va écouter la manière dont McFly et Carlito ont présenté l'opération.
On va vous montrer ce truc, pour en parler ensuite, juste avant de le voir.
On le montre tout de suite.
Bonjour à tous les deux, j'espère que vous allez bien. Alors je sais que d'habitude, c'est vous les spécialistes des défis.
Wouah, putain. Wouah.
Pour aider nos soignants aujourd'hui, pour nous aider à gagner collectivement face à l'épidémie, il y a des gestes simples, des comportements tout simples, des choix au fond tout simples, que nous avons à faire chaque jour et qui permettent de ralentir ou d'arrêter ce virus de la Covid-19. Alors, je vous lance un défi. Faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes, l'importance de les respecter. Si vous avez 10 millions de vues, je prends un engagement. Vous venez tourner à l'Élysée. 10 millions de vues pour nous aider à battre le virus. À vous de jouer.
Évidemment que c'est politique, évidemment que c'est malin, il y a de la stratégie derrière.
Ah bah il n'est pas bête, il n'est pas dupe, il ne fait pas ça juste pour nous faire plaisir, évidemment qu'il a...
Il y a les élections dans un an.
Mais oui.
Bon.
Mais on ne souhaite pas faire de la politique. Évidemment, on n'en a jamais fait dans la vidéo, nous-mêmes on n'est pas hyper calés.
C'est pas notre volonté, c'est pas notre mission, c'est pas... voilà. Mais quoi qu'on fasse,
ça sera transféré comme ça.
Il va y avoir des articles, des médias, des tweets.
Au vu des éléments, à savoir, 1, on est totalement libre artistiquement dans notre contenu, et 2, on peut aider la santé publique à travers les gestes barrières.
C'est un bon message à envoyer.
Nous acceptons.
Voilà, nous acceptons. Et puis du coup, ils l'ont fait, cette vidéo, à la chanson très, très entêtante. D'ailleurs, rien que pour vous embêter, je vous montre un extrait. On vous montre un extrait de cette vidéo, donc pour éduquer aux gestes barrières.
Je me souviens de ce monde où les seules barrières étaient celles dans les champs de vaches
ou bien de dindons.
Si l'on veut retrouver ces sensations d'hier, il faut appliquer les gestes barrières. Hier, gestes barrières. Hier,
se laver les mains. De s'embrasser, de se serrer la main, porter un masque, y compris quand on est en voiture avec des proches.
Geste barrière, yeah.
Aérer régulièrement les pièces où nous nous trouvons. De ne pas nous rassembler, de ne prendre aucun risque, pas avoir de grands regroupements.
Geste barrière.
Voilà, et puis après, la police leur dit « mais vous n'avez pas vos masques », etc. Bon. Monté, vous avez réagi très fortement à toute cette opération sur Twitter. Vous avez fait un thread qui a été très, très remarqué. Vous n'auriez jamais accepté une telle proposition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a énervé, en fait ?
Oui, contrairement effectivement à ce que beaucoup ont l'air de croire sur Twitter, effectivement, je n'aurais jamais accepté ce genre de choses. Ça a l'air de faire consensus chez beaucoup qu'on est obligé d'accepter ce que nous demande le président de la République. Moi, écoutez, ce qui m'énerve, il y a tout un tas de choses. C'est pour ça que le thread est long. Je pense que c'est pour ça qu'il a beaucoup été partagé. Déjà, il y a cette individualisation des mesures sanitaires qui... Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais j'ai l'impression déjà que ça fait complètement l'impasse sur des mesures qui pourraient être faites par l'exécutif hein, pour pouvoir lutter contre l'épidémie. Mais de toute façon, je ne crois même pas que cette vidéo soit vraiment au sujet des gestes barrières ou au sujet de quoi que ce soit. La finalité, c'est le concours d'anecdotes avec Emmanuel Macron. De toute façon, c'est...
Oui, parce que j'ai pas dit,
mais... Pour moi, c'est d'utiliser le Covid.
Ouais. Effectivement, le but...
Utiliser le Covid et la pandémie pour des fins politiques, hein, simplement.
Voilà, le but, c'est effectivement... Enfin, McFly et Carlito ont demandé... à ce que, ultimement, quand ils arrivent à l'Élysée et qu'ils tournent leurs vidéos, il y ait un fameux concours d'anecdotes qui est un truc qu'ils font régulièrement. Donc il y a le côté, effectivement, manip, ils s'en défendent plus ou moins bien en disant mais nous on ne fait pas de la politique. Bon là, objectivement, ils en font. Ce qui vous a aussi un peu dérangé, c'est les 10 millions de vues et la manière dont ces vues ont été probablement obtenues, Monté.
Ben ça, je ne savais pas au moment du thread, effectivement, mais j'ai regardé la vidéo de Blast qui a fait une petite enquête là-dessus. Effectivement, il y a des suspicions d'utilisation de bots. Hein, ce n'est pas la première fois pour LRM. Sur Reddit, notamment, ils avaient beaucoup été emmerdés avec ces histoires de bots. Et effectivement, il y a beaucoup de commentaires automatiques, une référence juste des mots-clés qui ont poussé beaucoup la vidéo. YouTube apparemment se défend en disant que ça n'a aucun impact. N'empêche que ça a bien eu lieu... Et je me demande à quel point ça a participé à la mise en avant de la vidéo en question, même si effectivement elle a quand même été relayée dans tout un tas de médias, puisque moi je l'ai même vue sur OJT, sur M6. Hein, donc...
Oui, un tiers des commentaires sont des commentaires automatiques avec du référencement forcé, que c'est ce que Blast, en tout cas, explique dans son enquête avec des faux comptes. Vous avez réagi comment alors des faux comptes dont on ne sait pas du tout s'ils viennent de LREM, hein, je m'empresse de le dire.
Le truc, c'est que ça a l'air un peu conspiration, là, ils ont tout manipulé, ils ont fait des fausses vues, mais en fait, c'est une pratique relativement courante dans le milieu de la com, parce que du coup, une boîte qui fait de la com, qui propose des services, par exemple, à une entreprise, lui dit regardez je vous propose ce package et vous allez voir ça va marcher et parfois cette boîte là justement pour prouver à son client que ça a marché va acheter du trafic, un peu de vues, un peu de trucs, regardez on vous a vendu notre truc et il marche. C'est un truc qu'on connaît dans les boîtes justement qui vendent des prestations de communication à des entreprises. On connaît aujourd'hui aussi l'appétence de l'exécutif et des gens autour pour les prestataires privés. Je pense que voilà, il y a une boîte de com derrière qui est allée voir la boîte de com de McFly et Carlito. Il y a une affaire.
On ne sait pas. Hein, mais bon, effectivement.
Ah bah, peut-être qu'ils ont reçu un matin, en effet, un message vidéo d'Emmanuel Macron comme ça.
Non. D'ailleurs, ils sont assez transparents sur comment ça s'est passé. Hein. D'ailleurs, on les voit, ils se filment même en train de discuter au téléphone avec l'un des collaborateurs.
Ouais.
Voilà,
ouais.
C'est ça, du président de la République.
Ouais.
Je trouve que d'ailleurs McFly et Carlito ont assez bien joué de ce point de vue-là. En sachant, d'ailleurs vous l'avez montré, la transparence, en disant de toute façon on va se faire allumer la gueule. Pas grave, on va quand même vous montrer qu'on est littéralement au téléphone avec le mec et d'ailleurs ça nous fait marrer, etc. On va vous dire tout de suite, évidemment, soyons pas naïfs, c'est politique, il y a des élections l'année prochaine, voilà, on n'est pas dupes. Mais quand même, interviewer Macron, ça nous fait marrer. Vous voyez, il y a...
Mais c'est intelligent, hein.
Mais j'ai trouvé ça assez bien joué. Moi, cette opération-là m'a fait penser vraiment à la fin des années 80 avec les stars de la télé et du cinéma qui faisaient des spots publicitaires pour la sécurité routière. On est à la limite du politique et de la santé publique, en l'occurrence. Et on est à un moment, effectivement, où c'est vrai que ça brouille les pistes. En France, on est peu habitué, aux États-Unis un peu plus, à avoir des célébrités, des gens... neutre, identifié comme neutre en tout cas, bon, c'est des gens qui font de la guitare ou qui font des films, bon, on n'a pas l'habitude de les entendre parler politique, qui viennent là, d'un seul coup, nous parler pour un truc, une opération de communication d'un angle de santé publique. Évidemment, et je suis complètement d'accord avec McFly et Carlito, il y a un enjeu politique derrière qui est important pour Emmanuel Macron, d'essayer de se refaire une image auprès de jeunes qui sont particulièrement maltraités par la crise du Covid, ou par sa politique, chacun voit comme il veut. Mais... Mais pour autant, faut-il, sous prétexte que c'est un homme politique, Emmanuel Macron, faut-il ne pas accepter...
C'est pas un homme politique, là. C'est le président de la République. Et il y a les élections 2022, quand même. Enfin...
Oui, mais et donc quoi ? On parle plus aux politiques sous prétexte qu'ils sont politiques ?
Et est-ce que cette vidéo est une vidéo de sanitaire ? Est-ce que c'est une vidéo qui éduque aux gestes sanitaires ?
10 millions de vues sur une chanson sur les gestes barrières, je ne sais pas comment le gouvernement...
Jamais, on ne voit jamais la manière dont il faut mettre le masque, enfin voilà.
Le fait est qu'ils en parlent, alors est-ce que c'était la bonne manière ? J'en sais rien, je ne suis pas un spécialiste de santé publique, mais je ne sais pas comment le gouvernement peut faire pour toucher 10 millions de jeunes autrement qu'avec McFly et Carlito. Il n'y a pas une chaîne télé qui est capable de s'adresser à 10 millions de jeunes.
Mais les 10 millions de jeunes, ils mettent le masque par ailleurs. Enfin, est-ce qu'il y avait une Est-ce qu'il y avait une urgence
ou pas suffisamment. Alors ça j'en sais rien, peut-être que pas suffisamment, peut-être qu'il y a des indicateurs qui ont montré qu'effectivement il y a du relâchement chez les jeunes du côté du respect des gestes barrières élémentaires. J'en sais rien sûrement, je suppose que le gouvernement a de bonnes raisons de continuer à faire la communication sur les gestes barrières. Je remets pas ça en cause, j'en sais rien.
Il y a une institution par laquelle le gouvernement peut adresser un message à 10 millions de jeunes, c'est l'éducation nationale. On parlait de corps intermédiaires.
Est-ce que ça suffit Vraiment, je sais pas. Moi, encore une fois, les opérations de santé publique avec les stars du cinéma, de la télé ou d'Internet,
c'est ça m'a jamais choqué. Mettre aussi en rapport avec le fiasco de la rentrée de Blanquer, des trucs qui n'étaient pas prévus. Les gamins, si vraiment on parle des gamins, les gamins, ils ont vu leur prof faire n'importe quoi, changer d'une semaine sur l'autre, et puis il y a eu des couloirs, ils ont vu des trucs absurdes, des classes pas fermées alors qu'il y avait des gens qui avaient le Covid dedans. Ils voient ça, et derrière, ils voient Emmanuel Macron qui apparaît dans le ciel avec McFly et Carlito. C'est du rattrapage de coups alors à ce moment-là.
Mais je pense qu'il y a une opération anti-incendie là du gouvernement depuis un mois et demi. Clairement, sur la jeunesse, il y a alerte rouge, les jeunes, il y a un problème, ça va pas du tout, ça marche pas.
C'est de la com' de crise
on est dans l'extinction d'incendie, là, de la com' de crise, effectivement. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles on voit effectivement cette agitation du gouvernement à essayer de faire des trucs sur Internet pour s'adresser aux jeunes.
Si on veut leur apprendre à mettre un masque, on peut le faire en cours, quoi, en classe.
Et c'est déjà fait. Est-ce que pour oui, mais ça n'empêche pas de doubler d'un
message. Mais là, ça promeut clairement plus Macron que le masque. Hein, je veux dire, il joue le jeu même avec cette figure de Dieu. il joue le jeu tout en faisant mine de ne pas le jouer. Enfin, c'est toute une. Tout ce qu'on a vu là pendant l'émission, qu'est-ce que ça augure en fait pour vous? Est-ce que c'est une heureuse rencontre entre deux univers? Est-ce que c'est une récupération spectaculaire d'un univers qui était éloigné quand même de la politique, ou du moins où la politique se faisait de manière moins mainstream. Enfin, comment vous sentez à travers ces trois opérations, donc McFly et Carlito, les live d'Attal et puis l'arrivée des politiques chez Samuel Etienne, qu'est-ce qu'on dit de tout ça?
C'est le sens de l'histoire. C'est le sens de l'histoire, il faut pas...
Le bon ou le mauvais sens de l'histoire?
Ah mais pour le meilleur comme pour le pire, okay. Je suis absolument navré, chacun se fera son opinion, je le redis, ça soulève des questions que je trouve très intéressantes, des questions qui interpellent sur l'éducation aux médias, qui interpellent sur la lutte contre les fake news, qui interpellent sur la lutte contre la tricherie aussi, sur le botting par exemple. Toutes ces questions-là sont soulevées, elles n'existaient pas, elles existaient beaucoup moins dans le monde d'avant. Mmh. Bon, le monde d'après va être beaucoup plus composé d'effectivement de gens sur Internet qui font des choses. On est en train d'assister au balbutiement d'un monde politique qui se saisit de cet outil, pour le meilleur comme pour le pire. Peut-être que le gouvernement Emmanuel Macron est en train d'inaugurer un truc qui va devenir une norme dans tous les quinquennats suivants pour les décennies qui viennent. Peut-être qu'ils sont en train de tenter des trucs que personne ne refera jamais parce que putain, c'était craignos et ça a soulevé des critiques légitimes, etc. Peut-être.
Votre regard sur ces trois objets qu'on a examinés aujourd'hui, votre conclusion?
Moi, je ne pense pas que, en réalité, ce soit vraiment un moyen de la part des politiques de s'intéresser à la jeunesse. Ils ont plein de façons de le faire, et de manière très concrète d'ailleurs. Et ce que je constate, en fait, c'est que je pense que la plupart des influenceurs, en fait, ou de Samuel Etienne notamment, qui reçoit des politiques, sont des gens qui, en fait, ceux qui sont reçus sont déjà des partis qui sont déjà très visibilisés, qui ont les moyens, parfois même les moyens de l'État, les moyens du gouvernement, dans des dispositifs qui peuvent être parfois très coûteux. Et ça dit déjà quelque chose de qui va être reçu ou non, en réalité. Je ne pense pas qu'on verra ni Madame Artaud, ni Monsieur Asselineau, ni même Monsieur Dupont-Aignan chez McFly et Carlito, par exemple. Donc, en réalité, déjà, on peut dire qu'il y a une partie du champ politique, je pense, qu'il n'aura pas accès à ces outils et qui va se retrouver pénalisé dans le jeu démocratique, en fait, tout simplement. En termes de pluralisme, on risque... Je ne suis pas prophète, mais je pense qu'on risque de ne pas forcément s'y retrouver. Et là où il y avait une différence, quand même, en 2012, on a beaucoup parlé de YouTube. Mélenchon avait notamment lancé sa chaîne. Je sais qu'LRM avait une chaîne aussi. Asselineau avait une chaîne très suivie. Mais là, quand même, la différence, c'est que ça n'a pas pu via leur chaîne à eux. Mm-hmm. En tout cas, si, Gabriel Attal, si, mais via les moyens... via cette frontière qui est est-ce que c'est le gouvernement ou est-ce que c'est Gabriel Attal ?
Non-frontière,
on s'invite chez des gens. C'est fondamentalement différent, c'est-à-dire qu'effectivement, on a accès à leur communauté, à eux, et de fait, il y a quand même une validation qui est faite de leur part d'un projet. Et le dire que ce n'est pas dire que c'est politique ou que ça ne l'est pas, ou qu'on veut faire de la politique ou qu'on ne veut pas en faire, ça ne change rien au caractère politique de la démarche, de toute façon. Et ça mérite quand même d'être rappelé. Et je ne suis pas sûr que ça participe vraiment, ça, à la politisation de la jeunesse, en réalité. Je ne sais pas, quoi.
Oui, et puis du coup, c'est des univers qui pourraient être alternatifs. Hein, on pourrait imaginer... que Twitch accueille plutôt des politiques effectivement qui sont pas des grosses machines, et c'est visiblement pas toujours le cas. Usul, pour finir, pour conclure.
Pour rebondir sur ce que disait Monté, quand on a une audience, c'est comme la presse, hein, une audience, elle la vend. Après, quand elle veut vendre des espaces publicitaires, en fait, elle vend son audience. Un YouTuber, pareil, va vendre son audience à une marque, voilà. Là, on se retrouve face à des influenceurs qui vont monnayer leur audience, vendre leur audience. Alors, on dit, souvent, ils le font gratuitement.
Là, en l'occurrence, ils n'ont pas été payés, par exemple, chez Attal.
Ni chez Attal. Je pense que McFly et Carlito, j'en sais rien. Samuel Etienne ne va pas être payé pour recevoir Jean Castex, etc. Il y a des profits symboliques. Il y a des profits symboliques qui peuvent être considérables. Déjà, être invité à l'Élysée, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà, moi, je n'ai jamais été invité à l'Élysée, toi, peut-être. Je connais pas.
Oui, j'ai déjà été invité à l'Élysée.
C'est pas très sympa. Les profits symboliques, par exemple, pour Samuel Etienne, quels sont-ils? Mais on ne parle que de lui dans la presse, c'est-à-dire tous ses collègues sont en pamoison devant ce qu'il fait. C'est une réussite professionnelle considérable. Ça s'appelle des profits symboliques. Donc on voit bien quand il avait demandé d'abord à son audience « Est-ce que vous voulez que j'invite des politiques ?» L'audience avait fait « Bah non, nous, tu fais ta revue de presse, c'est très bien. » La majorité avait dit ça. Et puis lui, il fait « Ouais, mais moi, je ferais bien ça quand même. » Et il a raison, c'est sa chaîne, il fait ce qu'il veut. Ouais. Et ce qu'il veut, mine de rien, c'est il a eu l'ancien président, le Premier ministre. Et bah, c'est tous ses autres collègues autour. C'est là on voit que c'est la collision entre deux champs qui ont des logiques complètement différentes. Il y a tous ses collègues autour, voilà, qui le portent au nu maintenant. Donc ça, déjà d'une part. Mais je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis. Je suis complètement d'accord avec toi. On voulait pas faire good cop, bad cop. Hein, c'était pas le.
Non.
Parce qu'au fond, je pense qu'on est d'accord.
D'accord sur quoi?
Si ça permet d'avoir... Il dit c'est le sens de l'histoire. Bon, pour moi, le sens de l'histoire, pour moi, c'est la lutte. C'est y compris la lutte de classe.
Ouais.
Donc, le sens de l'histoire, du coup, moi, c'est d'alimenter le regard critique que vont avoir les gens, parce qu'en effet, on ne peut pas les empêcher de faire ça, on ne peut pas empêcher les youtubeurs de vendre leur audience, on ne peut pas empêcher les politiques, les journalistes, voilà, de faire ce qu'ils ont envie de faire. Nous, on peut, à notre place, essayer d'éduquer le regard critique des gens, et c'est très bien, et c'est ce que tu fais.
C'est ce qu'on fait, toi et moi. Oui, à notre niveau, à notre manière.
Et c'est ce que tu fais, et c'est ce que vous faites aussi. À Arrêt sur Image, c'est que vous avez l'émission Classe Télé, voilà, où on voit que des jeunes, quand on les éduque à avoir du regard critique, on les aurait mis devant Jean Castex ou vous l'avez peut-être
fait.
Bons,
hein. Ils sont voilà. super bons, ouais.
Vous l'aurez peut-être fait avec McFly et Carlito.
On aurait pu, oui, absolument.
Voilà, on voit que c'est possible d'apprendre le regard critique, ça s'apprend. Donc, bon, nous, on doit cultiver ça pour pas. On lutte, eux, ils veulent des gens dépolitisés parce que ça marche mieux, faire de la com' auprès de gens dépolitisés.
Mais finalement,
on veut des gens politisés. Voilà.
Mais ils les politisent peut-être malgré eux, comme on a vu avec Enjoy Phoenix.
Ce serait très bonne nouvelle.
Voilà.
Ça, ce serait génial.
Voilà. Mmh. Bon, merci beaucoup à tous les trois. Le prochain épisode, un peu, c'est les grandes chaînes de télé qui sont en train d'arriver sur Twitch. Hein. TF1 annonce une émission sur Twitch. Oui, absolument. Donc, on va en parler. La récupération n'en est qu'à ses débuts. Merci à tous les trois et à la semaine prochaine.